L'Histoire jugera des élections dans le monde. Chaque semaine, des élus, des politologues, des universitaires, des essayistes, des laboratoires d'idées, et j'en passe, nous aident à comprendre les relations internationales. L'Histoire jugera 102.3 FM. Toujours à Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, radiocentreville.com. On poursuit notre diagnostic du français langue seconde un peu partout dans le monde, mais cette fois-ci, retour en Espagne, retour dans la capitale Madrid. Est-ce que les Espagnols sont francophiles? Est-ce que les Madrilènes eux-mêmes sont francophiles? Pour le vérifier, elle s'appelle Berta Miravete, elle est professeure de français langue seconde à l'Escuela Oficial de Idiomas Rivas Vacia Madrid. Elle a accepté notre invitation et nous sommes en duplex, bien entendu, avec Madrid. Berta, bonjour et bienvenue à Radio Centre-Ville.
Bonjour, merci.
Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Je vous parle, si vous voulez, un petit peu de la situation du français à Madrid, concrètement. Madrid peut être un reflet de ce qui se passe dans le reste de l'Espagne, mais en fait, c'est intéressant parce que c'est ce qui se passe en plus gros. Alors, le français langue étrangère est un petit peu dans une situation assez faible dans l'enseignement secondaire. Selon le groupe de professeurs de français dans l'enseignement secondaire, de lycée, concrètement, c'est un groupe qui est formé, qui s'appelle Madrigalia. D'accord, c'est la combinaison entre Madrid et Galia, la Gaule. Et selon leur dernier rapport, leur situation est assez vulnérable par le fait que l'offre du français langue étrangère dans les lycées est une optative, c'est-à-dire c'est une matière qui n'est pas obligatoire, et une optative qui entre en compétition avec parfois 5 ou 6 autres optatives entre lesquelles se trouvent des matières en relation avec l'informatique, en relation avec l'art dramatique, en relation avec le sport. Et c'est vrai que les étudiants, les élèves sont plus décidés à prendre des matières qui ne leur supposent pas beaucoup d'efforts. Et voilà que la situation se rend difficile pour le français. À cela, on doit ajouter que l'instant centre éducatif n'a pas plus de 2 lignes, c'est-à-dire de 2 classes par niveau. Si on n'a pas, par exemple, 10 élèves qui veulent faire du français, directement, la matière n'est plus offerte du tout. Ce sont des revendications qui faisaient le groupe Madrigalia il y a juste l'année dernière, et avec le but de se réunir avec les administrations éducatives espagnoles pour revendiquer un petit peu le soutien du français leur soutien. Par contre, je dois dire que en dehors du système éducatif secondaire, du système obligatoire, en Espagne, nous avons les écoles officielles de langue. Ce sont des écoles qui appartiennent au domaine public, qui n'ont pas d'équivalent direct dans le reste d'Europe. C'est un enseignement non obligatoire. Leur public est majoritairement des adultes, d'accord? Nous avons aussi des adolescents. Mais c'est là que le français survit. Le français et le reste des langues minoritaires en Espagne. Oui, parce que, évidemment, la langue de l'Empire, qui est l'anglais, elle continue toujours à avoir beaucoup de demandes. Mais c'est grâce aux écoles officielles de langue que nous continuons à maintenir cette offre éducative et donc à continuer à enseigner la culture et la langue française à tous ceux qui veulent.
Voilà. Généralement, quand on s'inscrit dans votre école, est-ce que c'est parce qu'on vise peut-être de faire Erasmus, qu'on veut peut-être émigrer dans un pays francophone, ou parce qu'une entreprise française installée en Espagne nous demande de parler français? En fait, qui sont vos étudiants généralement? Dans quel but ils s'inscrivent?
Nous avons un public réduit, mais qui continue à exister, qui est hétérogène. Nous avons des anciens étudiants de français, des gens qui sont aujourd'hui déjà plus âgés et qui étudient à l'école français et pas l'anglais. et qui garde un très bon souvenir de la langue française à cette époque en Espagne et qui veulent reprendre ce type de d'apprentissage pour le plaisir, pour se maintenir en forme à niveau intellectuel, pour faire des relations, etc. On a bien évidemment des gens d'un âge compris entre 30-40 ans qui ont des qui auraient besoin pour leur travail, n'est-ce pas, ou qui doivent partir faire un stage ou travailler ailleurs, ça c'est clair. Nous avons aussi des adolescents qui souhaitent avoir dans leur CV une deuxième langue étrangère. Et c'est vrai que le français continue à être une langue qui est plus facile d'apprendre que l'allemand. Donc cela inspire quelques adolescents qui veulent un éventail de langues un peu plus grand. Et voilà ce que nous avons, des besoins à niveau de travail, du plaisir. Moi, je dis toujours que la langue française, c'est une langue de plaisir. C'est la langue du plaisir, vous voulez, c'est pour le travail, mais ça, c'est pour le plaisir, et c'est ce que j'essaie de transmettre.
Est-ce que vous pourriez dire que votre...
C'est mon approche pédagogique, d'ailleurs.
Voilà. Est-ce que vous pourriez dire que le français, globalement, en Espagne, et peut-être plus particulièrement à Madrid, a des beaux jours devant lui, où la compétition est féroce?
La compétition est féroce en tout ce qui n'est pas la langue de l'Empire. Par la seule raison que le fait d'étudier une langue requiert d'un effort. Et nous ne sommes pas dans une époque où l'effort, où la culture en général soit le premier, comment dirais-je, la première chose que les gens tiennent en compte. Donc, mais c'est pas par le fait d'être français. Ben, le français, ben, il est déjà devant d'autres langues. Devant d'autres langues étrangères à l'école officielle de langue, par le fait de cette proximité linguistique, par le fait que nous avons des racines communes avec l'espagnol, c'est une langue qui vient du latin. Ça sera toujours beaucoup plus facile à apprendre que d'autres langues minoritaires. Donc, il y a donc un certain avenir, mais c'est vrai que ce que j'ai dit avant, c'est vrai, la compétition entre les optatives à l'enseignement secondaire ne rend pas une grande faveur aux langues secondaires. Et puis, même si l'école officielle de langue qui existe dans toute l'Espagne, lutte pour faire survivre ces langues minoritaires. Ben, peut-être que l'époque de l'effort et de l'apprentissage, ben, c'est un petit peu ce qui rend difficile l'essor des langues étrangères. D'accord? Voilà.
Voilà. Alors, je le rappelle, donc, Berta Mira Vete, vous êtes professeure de français à l'Escuela Oficial de Idiomas Rivas Vacia Madrid, en duplex avec Madrid. Berta, merci beaucoup pour l'entretien. Toujours à Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, radiocentreville.com. On s'intéresse encore une fois cet après-midi au français langue seconde en Espagne et plus particulièrement au nord complètement dans le Pays basque espagnol pour en discuter, pour nous dire si cette langue qui est forcément très très proche de la France, le territoire étant collé sur les Pyrénées-Atlantiques, savoir si le français langue seconde, se porte bien dans le Pays basque. Pour en discuter, elle s'appelle Iraide Pérez Blanco. Elle est maître de conférences et professeure au département de philologie et d'histoire de l'Université du Pays basque. Elle a accepté notre invitation et nous sommes en duplex avec la capitale du Pays basque, Vitoria. Iraide, bonjour et bienvenue à Radio Centre-Ville.
Bonjour, enchantée.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, d'entrée de jeu, Iraide, selon ce que vous percevez dans le Pays basque espagnol, pourriez-vous dire que la population locale, en fait, les Basques espagnols, pourriez-vous dire qu'ils sont francophiles?
Alors, on est francophile parce qu'en fait, on est très très proche, n'est-ce pas, de la France. On a là les pays basques nord qu'on appelle Iparralde. Et là, on voit que la culture française et la culture basque, en fait, est très mélangée. Et là, on voit que l'apprentissage, en fait, du français est nécessaire.
Est-ce que les Basques apprennent facilement le français vu la proximité géographique? C'est le cas en Catalogne, hein? Il y a quand même beaucoup de francophones, de francophiles en Catalogne. Normal, j'imagine quand on habite Bilbao ou Barcelone, nos premières vacances, on les prend de l'autre côté de la frontière. Est-ce que c'est un réflexe naturel d'apprendre le français au Pays Basque?
Pas forcément. En fait, Navarre, c'est tout à côté du Pays Basque. Alors, on a la Navarre. Et là, si c'est vrai que presque toutes les adolescents et les élèves des secondaires, ils vont apprendre le français dès qu'ils sont adolescents, en fait. Mais après, Bilbao, Vitoria, Guipuscoa, là, ce n'est pas si habituel de trouver beaucoup d'apprenants de français depuis les secondaires. Ce n'est pas une matière qu'on va apprendre depuis qu'on est petit parce que ce n'est pas une matière obligatoire au lycée.
Est-ce qu'il y a intérêt, par contre, pour la population de s'intéresser aux langues secondes autre que l'anglais? J'imagine que l'anglais est appris, c'est normal. Le français est quand même la deuxième langue seconde dans le monde. Est-ce qu'il y a un intérêt pour la population espagnole globalement et surtout basque pour l'apprendre?
Normalement, je vous dirais que oui, il y en a, mais c'est vrai que comme la langue française, même si nous les Basques, on sait aussi, normalement, on sait parler aussi en espagnol, c'est vrai que pour la plupart des apprenants de français, ils vont dire c'est très compliqué. Et là, et peut-être qu'ils vont commencer avec leur apprentissage du français parce qu'en fait, on est à côté, mais après, quand ils commencent à l'étudier, normalement, il va y avoir peu d'élèves qui vont suivre jusqu'au niveau C1, par exemple, dans les écoles officielles de langue. Alors, ils vont plutôt, ça va être plutôt les élèves qui vont continuer avec leur apprentissage, pardon, du français. Ça va être parce qu'ils vont aimer beaucoup cette langue. Ils vont apprendre même si la prononciation, la grammaire ou les lexiques est compliquée.
Parlons-en justement du Pays basque. Parlons de la langue basque, qui est une langue minoritaire, bien entendu, tout comme le catalan et le français au Québec. Est-ce que la langue basque se porte bien ces jours-ci dans votre région?
Oui. Et surtout à la zone de Bilbao. Et là, le basque, on continue à le parler, plutôt dans les petites villes, mais aussi dans des grandes villes. En fait, le gouvernement basque est en train d'introduire des programmes d'apprentissage gratuit du basque pour toute la population. Et on voit, n'est-ce pas, qu'on habite dans une terre bilingue.
Est-ce que l'enseignement du basque est obligatoire à l'école? Parce qu'on le sait, c'est obligatoire en Catalogne et ça crée des frictions pour les parents qui ne veulent pas nécessairement que leurs enfants, s'ils ne viennent pas de la Catalogne, apprennent le catalan. Est-ce qu'il y a comment je pourrais dire, cette confrontation-là dans le Pays basque?
Alors, il y a dans l'enseignement privé, dans les établissements privés, il va y avoir un établissement qu'on appelle Ikastola. Et là, les Ikastola, ça va tout être en basque. Alors, ça, côté enseignement privé. Alors, après, on peut aussi trouver d'autres types d'établissements. Et là, on peut avoir le basque comme et pas obligatoire, facultative. Et après, dans l'enseignement et public, pardon, là, on peut tout le faire dans la langue basque ou pas. On peut choisir, mais toujours, on va avoir la matière basque. Là, ça va être obligatoire comme matière, mais après, on peut aussi choisir, les parents peuvent aussi choisir de tout faire et en basque avec leurs fils.
Eh bien, justement, parlant du Pays basque, on le sait, il est divisé, hein, côté français, côté espagnol. Le Pays basque, historiquement, se descend même un peu plus bas vers la Navarre, entre autres. Est-ce que la langue basque est plus solide en Espagne ou en France, selon vous?
Je pense ce que je pense. Là, quand j'ai pas mal voyagé au Pays Basque et Basque français, on est à 1 heure de chez moi. Et là, je vois que là, même s'ils sont aussi un peu bilingues, là, ils ne parlent pas comme ici. Alors, moins de populations vont parler en basque. C'est vrai que si c'est une population minoritaire, alors là, et on n'entend pas trop le basque, pas comme ici, hein, au Pays basque espagnol.
Malgré tout, est-ce qu'il y a de l'entraide parce que vous êtes à la fois côté espagnol, à la fois côté français dans une logique de survie? Est-ce qu'il y a de l'entraide malgré tout?
L'intérêt?
De l'entraide, est-ce que les deux groupes s'aident mutuellement pour défendre la langue?
Oui. En fait, nous, les universités, on travaille avec une fondation qui s'appelle Euskampus. Et cette fondation va aussi créer des liens entre les côtés basques français, côté basque espagnol. Et là, on va créer beaucoup de liens avec les universités, par exemple l'université de Pau et de Pays de l'Adour. Et on a pas mal de liens. Alors, on va essayer de renforcer les liens entre les deux territoires.
Voilà. Je le rappelle donc, Iraide Pérez Blanco, vous êtes maître de conférences et professeur au département de philologie et d'histoire à l'Université du Pays Basque. Nous sommes en duplex avec la capitale du Pays Basque, Vitoria. En terminant, Iraide, pour revenir au français globalement en Espagne et plutôt au nord-est surtout, pensez-vous que le français langue seconde a un bel avenir devant lui ou c'est difficile?
Non, je pense que il y a beaucoup de bon l'intérêt est en train de grandir entre les étudiants et moi je trouve qu'en professeur n'est-ce pas l'université du Pays Basque je pense que l'intérêt va jamais disparaître que le français en fait il y a pas mal de territoires qu'ils vont parler le français alors je pense que c'est nécessaire de l'apprendre et là le professeur on va faire notre travail, notre effort pour maintenir cet intérêt.
Voilà, ben, je vous souhaite bonne chance, Iraide Pérez Blanco, en duplex avec Victoria. Merci beaucoup pour l'entretien. Toujours à Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, radiocentreville.com. On parle intelligence artificielle aujourd'hui et on parle égalité femmes-hommes. Est-ce que les algorithmes sont féministes? Question toute simple, s'il en est une, réponse peut-être pas aussi simple. Bref, pour en discuter, c'est une habituée de Radio Centre-Ville. Elle s'appelle Juliette Bachschmidt. Elle est chargée de recherche à la Fondation Robert Schumann, qu'on connaît bien entendu, robert-schumann.eu pour en savoir davantage. On va parler justement d'intelligence artificielle. Elle a publié avec sa collègue Marie Coignac un article sur le site de la Fondation Robert Schumann intitulé « Enjeux technologiques et sécuritaires ». 2025, une année charnière pour les femmes, et évidemment, elle est avec nous en duplex avec Paris. Juliette, bonjour et bienvenue à Radio Centre-Ville.
Bonjour François et merci de m'accueillir.
Ben, ça nous fait un grand plaisir. Merci la Fondation Robert Schumann de nous pourvoir d'informations et surtout d'expertes en toutes sortes, et c'est votre cas. Alors partons du début. Donc déjà le titre m'a accroché, Enjeux technologiques et sécuritaires, 2025 pour vous est une année charnière. Pourquoi exactement?
Oui, tout à fait. C'est une année charnière. Alors déjà, avec le développement des IA ou des intelligences artificielles qui occupent une place absolument centrale dans nos vies de tous les jours, à peu près tous les domaines de la vie peuvent être régis par les IA. Et pourtant, on remarque des biais sexistes dans ces IA qui conduisent à la reproduction de stéréotypes au sein de la société, ce qui est plutôt très inquiétant, à vrai dire. Voilà.
En fait, est-ce que si on s'arrête même à l'univers de l'intelligence artificielle, est-ce que le monde des algorithmes, est-ce que le monde informatique, le milieu informatique est équitable ou c'est encore un boys club? On a l'impression que la Silicon Valley, par exemple, est encore un milieu très masculin.
C'est tout à fait vrai et ça commence déjà dès l'enfance hein, où les femmes ou les petites filles plutôt sont plutôt orientées dans des domaines du care, donc du soin, là où les petits garçons sont plutôt amenés à développer les mathématiques, l'ingénierie, etc. Ces différences se retrouvent donc après au niveau des études supérieures puisque les femmes représentent seulement un cinquième des filières du TIC, c'est-à-dire les filières de technologie de l'information et de la communication. Et donc, ce manque de femmes déjà à ce niveau-là se répercute forcément sur les ingénieurs qui conçoivent et fabriquent les IA, ce qui permet donc de reproduire des biais sexistes dans la conception des IA et donc dans leur utilisation par la suite.
Vous dites dans votre article que l'Europe est globalement le continent, disons, le plus égalitaire. C'est pas parfait, mais quand même. Est-ce que ça paraît dans le monde de l'intelligence artificielle en Europe ou pas tant que ça?
Écoutez, j'ai pas trouvé lors de mes recherches de différence, à vrai dire même de statistiques sur les ingénieurs au sein des différentes entreprises de l'intelligence artificielle. J'ai essayé de faire les recherches sur OpenAI et son concurrent français Mistral. Qui développe une IA qui s'appelle Le Chat. J'ai pas trouvé de statistiques, donc je peux pas encore vous dire si l'Europe sur ce plan-là est mieux pourvue que ses rivaux chinois ou américains. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que au niveau général, les femmes sont plutôt largement sous-représentées dans ces domaines-là.
Ben justement, vous dites en intertitre, les femmes grandes oubliées de la quatrième révolution industrielle. Pourquoi sont-elles des grandes oubliées, selon vous?
Selon moi, ce sont des grandes oubliées parce qu'elles sont presque absentes à toutes les chaînes, à tous les maillons de la chaîne de développement de ces IA. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, dès les filières de formation qui permettent de travailler dans ces domaines-là. Elles sont absentes dans la conception et dans le développement, ce qui fait qu'elles sont un peu laissées pour compte. Le monde avance sans elles. Et le domaine de l'intelligence artificielle, c'est vraiment, le terme n'est pas de moi, qualifié comme la quatrième révolution industrielle. Et c'est vrai qu'on voit très peu de femmes dedans. Alors ce que je crains, et c'est avec ma collègue Marie Coenia qu'on craint dans notre étude, en fait, c'est que ces intelligences artificielles se retournent un peu à la fin contre les femmes et leur portent préjudice plus que ce qu'elles les aident finalement.
Si on retourne du côté de l'Europe, du côté de l'Union européenne, dans la dernière législature, c'était tout de même une femme qui était en charge du numérique, Margrét Vestager. Est-ce qu'elle a tenu compte de cette absence féminine dans le monde de l'intelligence artificielle, selon vous?
Je ne sais pas vraiment si ces combats sont portés sur ça. Elle a été très présente pour essayer de rendre l'espace numérique européen sûr, de manière générale, mais je ne sais pas si elle a fait de sa mandature un combat de l'égalité homme-femme parmi ces domaines-là, pour tout vous dire.
Voilà. Retour donc à des questions reliées à l'intelligence artificielle. On parle beaucoup, malheureusement, de cyberharcèlement, de cyberprédateurs, ce genre de termes qu'on entend très souvent, qui malheureusement visent surtout les filles. Est-ce que c'est possible de combattre le cyberharcèlement? J'ai l'impression qu'il y a une certaine police du cyber, mais il y a toujours des moyens de la contourner. Est-ce que c'est un véritable fléau que l'Union européenne devrait étudier?
Oui, c'est un véritable fléau. D'ailleurs, on l'a vu, l'Union européenne essaie sur ce point-là d'avancer avec le Digital Services Act qui a été adopté lors de la précédente législature et qui essaye tant bien que mal d'être appliqué, notamment avec des super géants, des titans du numérique américain comme Elon Musk ou encore Mark Zuckerberg qui dérégulent à gogo. C'est donc la porte ouverte pour le cyberharcèlement en Europe.
Voilà. Donc, je le rappelle, votre article « Enjeux technologiques et sécuritaires 2025, une année charnière pour les femmes dans un monde, disons, un peu plus équitable ». Quel est votre souhait numérique pour 2025, Juliette?
Mon souhait numérique, écoutez, plus d'informations saines, moins de fake news et de désinformation sur nos espaces numériques. Et évidemment, l'égalité homme-femme à promouvoir sans cesse.
Voilà. Et justement, on enregistre en plein mois de mars, mois de l'égalité femmes-hommes, avec le 8 mars en toile de fond. Est-ce que c'est important pour vous de célébrer le 8 mars?
C'est important parce que ça permet à tout le monde de rappeler que de nombreuses inégalités subsistent. Toutefois, je déplore un peu le fait qu'il faille attendre ce jour en particulier pour le rappeler, puisque c'est une réalité que les femmes vivent au quotidien. Et donc, je trouve ça un peu dommage d'attendre le 8 mars pour rappeler qu'il y a encore des progrès à faire un peu partout et dans tous les domaines qui touchent à la vie professionnelle et personnelle des femmes.
Voilà, je le rappelle donc, Juliette Bach-Schmidt, vous êtes chargée de recherche à la Fondation Robert Schuman et on peut lire votre étude sur justement le site de la Fondation, donc robert-schuman.eu. En duplex avec Paris, merci beaucoup pour l'entretien.
Eh bien, merci à vous.
Toujours à Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, radiocentreville.com. On s'intéresse encore une fois cet après-midi à l'égalité femmes-hommes dans le sport, plus particulièrement en France. Pour en discuter, elle s'appelle Mathilde Berthoux. Elle est coordonnatrice sport et pédagogie chez Sport dans la Ville, sportdanslaville.com pour en savoir davantage. Elle a accepté notre invitation et nous sommes en duplex avec Lyon. Mathilde, bonjour et bienvenue à Radio Centre-Ville.
Merci.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de parler justement de la question de l'égalité femmes-hommes en France dans le sport, sujet très vaste, sport dans la ville, qui êtes-vous? Que faites-vous? Quel est votre cahier des charges?
Alors, Sport dans la ville, c'est une association qui a été créée il y a 25 ans à Lyon. L'objectif, c'est de créer des city-stades dans les quartiers les plus populaires, les plus pauvres, pour permettre une pratique au départ sportive gratuite donc dans ces quartiers. C'est surtout du football. Et ensuite, par le lien que les jeunes vont créer avec les éducateurs et les éducatrices, de les amener vers l'insertion professionnelle grâce à notre réseau de partenaires.
Est-ce à dire qu'il manque de structures sportives pour permettre aux jeunes et en particulier aux petites filles de faire du sport dans les communes en général?
Alors, il manque de représentation, je pense, de femmes qui font du sport. Et nous, l'idée, c'est de permettre vraiment le sport en extérieur. Donc, c'est vraiment des infrastructures qui sont au cœur des quartiers. Et l'idée, c'est de montrer qu'on peut être une jeune fille, jouer au foot dans son quartier et que tout est normal et que ça devienne vraiment une habitude parce qu'on sait que sociologiquement, c'est beaucoup plus facile pour un garçon d'être sur un terrain de sport extérieur que pour une fille.
Ben justement, cette petite fille, si elle lit les médias sportifs, est-ce qu'elle va voir suffisamment d'athlètes féminines dans les médias selon vous?
Alors selon moi, bien sûr que non. C'est encore, on commence tout doucement à médiatiser les femmes et ça commence à être fait. Et ça, il faut le souligner, mais ça reste vraiment anecdotique par rapport à la couverture masculine. En France, on a un gros média qui s'appelle L'Équipe. L'Équipe, je crois qu'il y a eu une avec des françaises et des femmes seules sur la une. Il y en a eu que deux dans l'année. Donc c'est vraiment un peu l'exemple. Exemple phare qui nous montre à quel point les femmes sont encore sous-représentées médiatiquement.
Et peut-être avez-vous remarqué, je consulte souvent les journaux sportifs, mais je prends par exemple la BBC qui, dans sa section sport, vous devez scroller longtemps avant de voir une femme et la nouvelle n'est pas nécessairement une nouvelle sportive. Ça peut être une nouvelle parallèle au sport. Elle est enceinte, elle quitte son boulot, elle signe un contrat, mais la performance sportive elle-même n'est pas toujours mise en évidence. Est-ce que ça vous fâche?
Oui, moi ça m'énerve beaucoup et c'est justement nous les messages qu'on veut faire passer à nos jeunes filles, c'est qu'on peut aussi parler de performance, on peut aussi parler de compétition quand on est une femme et on veut aussi que le traitement médiatique justement de nos jeunes filles et on veut aussi qu'il y ait des rôles modèles féminins qui soient mis en avant pour ces jeunes filles et pas uniquement parce que justement elles tombent enceintes, parce que elles sortent avec telle ou telle personne ou parce qu'il y a eu telle histoire autour d'elles.
Retour sur les Jeux olympiques d'été. Il y a eu des études qui ont, en fait, il y avait cette volonté au départ, un message envoyé aux médias d'être paritaire dans la couverture médiatique, autant d'hommes que de femmes, dans la mesure du possible 50-50. Ça ne semble pas avoir été entièrement respecté, mais il y a eu amélioration, ça, certains l'admettent. Est-ce que vous, quand vous pensez aux Jeux olympiques, est-ce que vous pensez systématiquement à des vedettes féminines qui en sont ressorties?
Alors, moi, oui, mais parce que je pense qu'on a essayé justement de montrer que les Jeux Olympiques, on y a été avec nos jeunes justement de sport dans la ville. On a été voir des sports féminins, on a été voir le rugby féminin. En France, on a eu pas mal d'athlètes. On a eu Pauline Ferrand-Prévot, on a eu l'équipe de France de rugby, on a eu l'équipe de France de handball, de football. On a eu pas mal de personnes en judo aussi qui ont vraiment excellé. Et on essaye de leur montrer que ces femmes, elles sont aussi performantes que les hommes. Mais nous aussi, sur les réseaux sociaux, il y a une journaliste qui allait demander de citer trois sportives qui avaient une médaille d'or pendant les Jeux Olympiques et en fait, les gens ne citent que les hommes.
Voilà. Est-ce qu'il y a quand même un... Ouais, voilà. Est-ce que malgré tout, il y a un héritage olympique positif pour les femmes?
Je pense qu'il y a eu déjà un premier pas de fait en essayant de rendre obligatoire la parité et en essayant de faire en sorte qu'il y ait 50% de femmes. Mais pour moi, c'est quand même un peu un cache-misère parce que on va dire oui, regardez, il y aura 50% de femmes, 50% d'hommes. Dans les faits, c'était pas le cas. Et en plus, les sponsors qui viennent aussi avec la médiatisation, ne donnent pas le même soutien financier aux femmes qu'aux hommes, et c'est un cercle vicieux. Donc, certes, il faut qu'il y ait autant de place pour les hommes que pour les femmes aux Jeux Olympiques, mais en amont, il faut qu'il y ait un énorme travail des fédérations, de l'État et des sponsors privés et publics pour pouvoir les accompagner, ces femmes-là.
Généralement, est-ce que les instances gouvernementales, autant la commune, le département, la région que le gouvernement lui-même, investissent dans le sport féminin? Est-ce qu'il y a cette volonté, selon vous, de la ministre Marie Barsac, la ministre des Sports, d'investir davantage dans le développement du sport féminin en France?
Nous, c'est ce qu'on espère. C'est aussi avec Sport dans la ville, quand on ouvre des terrains, on a un programme donc, qui s'appelle Elle dans la ville, qui est vraiment spécialisé sur les femmes. L'État nous finance via ce programme. Donc oui, il y a des volontés. Nous, elles sont jamais assez fortes, mais il y a des volontés qui sont quand même là. Et maintenant, il faut qu'on travaille ensemble pour que ce soit encore plus fort et encore plus pertinent.
Retour à vos activités pédagogiques, Mathilde Berthoud. Quand vous encouragez justement les petites filles à faire du foot, par exemple, est-ce que vous leur dites, est-ce que vous insistez sur le fait qu'il est possible de gagner sa vie en étant une athlète professionnelle féminine? Évidemment, c'est pas donné à tout le monde, mais la possibilité, elle existe. Est-ce que vous leur parlez d'éventuellement faire une carrière d'athlète?
Alors nous, sans parler de les faire devenir des athlètes professionnels, on va en tout cas essayer de lever les freins et on va leur montrer que en tant que femmes, elles peuvent avoir n'importe quel job qui leur plaise, que ce soit dans le sport, mais que ce soit aussi en tant que dirigeante d'une entreprise, que ce soit en tant que travailler dans une entreprise dite d'hommes. Donc leur montrer que tout ça est possible. Aussi dans le sport, bien sûr, à condition d'énormément de travail et de talent, mais aussi dans toute la sphère professionnelle en général. Ça, c'est vraiment le but de la vie.
D'ailleurs, en terminant, parlant de l'administration sportive, selon vous, en France, est-ce que les présidences de clubs, les associations sportives, c'est encore un boys club où les femmes ont de plus en plus leur place?
Malheureusement, en France, c'est des institutions qui restent pour l'instant très très masculines. Il y a encore très très peu et beaucoup trop peu de fédérations qui sont dirigées par des femmes. En France, je crois qu'il y en a quatre sur une centaine de fédérations. Et c'est sûr, c'est souvent des hommes blancs et assez âgés qui ont une cinquantaine d'années qui dirigent ces instances. Et oui, c'est problématique parce que ça laisse pas la place justement à des femmes d'avoir des rôles modèles et aussi à ces femmes de féminiser les fédérations.
Voilà, je le rappelle, Mathilde Berthaud, vous êtes coordonnatrice sport et pédagogie chez Sport dans la Ville, sportdanslaville.com. En terminant, Mathilde, terminons sur une note footballistique. Juillet prochain, c'est l'Euro, donc l'Euro 2025 en Suisse. Est-ce que c'est une bonne occasion, puisque les Bleus sont qualifiés, une bonne occasion de vendre davantage le rêve du sport féminin?
Oui, bien sûr, ce sera un moment qu'on va partager avec les jeunes. On a des camps de vacances avec les jeunes filles où elles pourront voir avec les jeunes filles et les jeunes garçons, parce que c'est aussi important de montrer aux jeunes garçons qu'on peut être une femme et réussir dans le sport et dans le foot. Donc ce sera des moments de partage avec tous les jeunes, ouais.
Voilà, et je termine sur une note un peu hors sujet. Mathilde Berthoud, est-ce que les Bleus vont gagner cet euro d'après vous?
Bien sûr que oui.
Voilà, bon,
Point
j'espère que
positif.
l'Europe en a pris bonne note. Voilà, que dire sinon, allez les Bleus. Mathilde Berthoud, en duplex avec Lyon, merci beaucoup pour l'entretien et on vous souhaite une belle année sportive féministe.
Merci beaucoup.
Toujours à Radio Centre-Ville, le 102.3 FM radiocentreville.com. On s'intéresse cet après-midi au canal de Panama et à Panama en général, mais surtout à son canal qui est dans le viseur de bien des puissances sur cette planète. Canal de Panama, un espace convoité au cœur de la rivalité sino-américaine. C'est l'article publié par Roman Luc, qui est analyste en stratégie internationale spécialisé sur les enjeux maritimes à l'Institut de recherche internationale et stratégique, ou si vous préférez, IRIS. trait-d'union-france.org, qui a accepté notre invitation et qui va justement nous résumer son analyse. Et nous sommes en duplex avec Paris. Roman, bonjour et bienvenue à Radio Centre-Ville.
Bonjour, merci.
Ben, ça nous fait un grand plaisir. Alors Roman, parlons de ce fameux canal de Panama. Le canal de Panama, pourquoi est-il une infrastructure importante de l'économie mondiale et en quoi revêt-il une importance stratégique majeure pour les États-Unis, surtout pas que les États-Unis, mais surtout pour Washington?
Oui, alors en fait, c'est donc le canal de Panama, il relie les océans Atlantique et Pacifique, et donc il évite aux navires de contourner l'Amérique du Sud par le Cap Horn. Et donc c'est un gain de temps et de coût qui est considérable, notamment pour le transport de matières premières comme les hydrocarbures, les minerais, même des matières premières alimentaires, ou même pour les biens manufacturés. Le canal de Panama représente environ 5 à 6% du commerce maritime mondial. Et donc ça fait plus de 10 000 à 12 000 même navires qui l'empruntent chaque année. Donc c'est pas rien. Et c'est donc un passage stratégique pour les exportations mondiales, mais surtout américaines, parce qu'on remarque qu'il y a plus de 70% des marchandises en provenance ou à destination des États-Unis qui transitent par le canal. C'est donc une voie privilégiée pour le commerce entre la côte est des États-Unis et l'Asie, mais aussi entre la côte ouest des États-Unis et l'Europe, ou encore entre les côtes est et ouest américaines. Donc stratégiquement, c'est un pivot logistique pour la puissance américaine. Il est au cœur des lignes d'approvisionnement commerciales, mais aussi il permet de déployer rapidement des forces navales entre deux théâtres d'opération, donc entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Pour les États-Unis, qui l'utilisent aussi beaucoup de cette façon-là. Donc, plus qu'un passage maritime, finalement, on peut dire que c'est un pivot stratégique des échanges mondiaux, et en particulier pour les États-Unis. C'est pour ça que le président Trump aimerait pouvoir en récupérer le contrôle.
Ben justement, il a affirmé à plusieurs reprises vouloir reprendre le contrôle si ça se produit. D'abord, est-ce qu'il faut prendre ces déclarations au sérieux et quelles en seraient les conséquences?
Alors, de manière générale, il faut peut-être commencer par voir ces déclarations comme un marqueur rhétorique assez classique du discours de Trump, puisqu'elles s'inscrivent dans une volonté de restaurer la puissance américaine, comme il le dit, donc « make America great again ». Et donc, ça lui permet d'entretenir aussi un imaginaire selon lequel les États-Unis se sont laissés déposséder de certains de leurs actifs stratégiques. Et donc c'est pour ça que donc fin décembre 2024, puis début janvier et lors de son discours d'investiture le 20 janvier 2025, il a à plusieurs reprises parlé donc, de reprendre le contrôle du canal, parce qu'il en dénonce la perte comme un symbole de la chute de la puissance et de l'influence américaine. En soi, ce n'est pas le cas. Ce qui se passe, c'est surtout que le canal a été construit donc, entre 1904 et 1914 sous impulsion américaine, et c'est les États-Unis qui en ont eu le contrôle et la gestion tout au long du XXe siècle. Et il y a eu un traité entre le Panama et les États-Unis en 1977 qui a planifié la rétrocession progressive du canal de Panama au Panama. Et donc ça a été entièrement actif à partir de 1999. Donc il n'y a pas eu de perte de la part des États-Unis. Ce n'est pas le Panama, qui en a repris le contrôle. On est bien sur quelque chose de... comme un acte diplomatique et légal, finalement. Et donc, on a donc Trump qui accuse en plus la Chine d'utiliser la position géographique du canal du Panama pour menacer les intérêts américains. Donc, il pointe une forme d'influence grandissante de la Chine en mettant en cause un conglomérat hongkongais qui s'appelle CK Hutchison, qui exploite les ports de Balboa et Cristobal, qui sont deux des cinq ports qui sont situés sur les extrémités du canal. Donc, les déclarations de Trump, finalement, révèlent une forme de malaise américain, si on peut dire, face à la présence croissante de la Chine dans la région, notamment à travers des investissements dans les infrastructures portuaires ou dans les zones franches autour du canal, et plus largement, un malaise face à une remise en question de leur influence historique en Amérique latine.
On parle de la Chine et on parle des États-Unis qui convoitent le canal. Est-ce qu'il y a d'autres puissances, sans l'admettre, pourraient être intéressées par un certain contrôle ou partager le contrôle, si on veut, de ce fameux canal?
Alors, dans les grandes puissances actuelles, non, pas forcément. Après, comme tous les canaux et même les détroits, ce sont des points de passage stratégiques du commerce mondial, donc ils sont forcément intéressants parce qu'ils vont pouvoir constituer des leviers de puissance pour les États qui en ont le contrôle ou alors qui peuvent avoir une influence sur ces points de passage stratégiques-là. Après, là, on est vraiment plutôt au niveau des routes maritimes et de ces points de passage stratégiques sur, un développement des capacités logistiques maritimes chinoises de manière générale dans le monde. Auprès de ces points de passage pour pouvoir sécuriser leurs approvisionnements. Ceci dit, on est toujours sur une rivalité sino-américaine qui prend le dessus sur une grande partie des relations internationales sur ce genre de questions.
Et qu'en pensent les pays d'Amérique centrale, donc en fait les pays limitrophes, je pense à la Colombie, est-ce que vous croyez que ces pays s'inquiètent de cette forme de guerre entre la Chine et les États-Unis non loin de chez eux?
Alors, ce qui se passe, c'est que donc la rhétorique de Donald Trump a peut-être suscité des inquiétudes dans la région, parce que le canal, donc c'est un point stratégique pour les États-Unis, pour le commerce américain, c'est un point stratégique pour le Panama, évidemment, d'un point de vue économique. Mais en fait, vu que c'est un point stratégique pour le commerce mondial et régional, un changement dans son contrôle ou dans sa gestion pourrait potentiellement, je dis bien potentiellement, affecter les économies voisines, notamment celles qui dépendent de ces routes commerciales-là ou des investissements étrangers. Donc, pourquoi pas imaginer une forme d'inquiétude? De manière générale, ce qu'on a observé depuis les déclarations de Donald Trump, c'est plutôt une forme de retenue de la part de ces États-là. Donc, il n'y a pas forcément eu de déclaration officielle ni rien. Je pense... parce qu'il doit y avoir une volonté de ne pas s'aliéner les États-Unis. C'est le principal partenaire économique et politique de beaucoup d'États dans la région, tout en gardant une possibilité finalement de partenariat avec la Chine, qui est un investisseur majeur également. Donc en fait, je pense qu'il y a plutôt quelque chose où ils voient la montée des tensions comme un risque potentiel pour la stabilité régionale. Pour autant, ils vont chercher à rester en bonne relation avec les États-Unis comme avec la Chine, parce que les deux sont des partenaires économiques assez importants.
Voilà, je le rappelle donc, Romane Leluc, vous êtes analyste en stratégie internationale spécialisée sur les enjeux maritimes à l'Institut de recherche internationale et stratégique iris-france.org. En terminant, question peut-être un peu naïve, Romane, dans cette compétition entre la Chine et les États-Unis sur Panama, qui va gagner selon vous?
Alors, il n'y a pas forcément de gagnant ou de perdant dans ce genre de questions. Là, les derniers développements, c'est surtout qu'il y a un consortium mené par BlackRock, donc un fonds d'investissement américain qui a racheté les parts de Siki Hutchison dans ces deux ports au Panama, donc les ports de Cristobal et Balboa que je mentionnais tout à l'heure. Donald Trump a immédiatement affirmé que c'était une façon pour les États-Unis de reprendre le contrôle sur le canal, ce qui évidemment a été réfuté par le président panaméen, étant donné que c'est une transaction privée et pas diplomatique. Donc voilà, on en est à ce stade-là. La Chine, évidemment, n'est pas forcément ravie de voir son influence peut-être être réduite. On en est là pour l'instant à voir dans les semaines et les mois à venir s'il y a d'autres évolutions à surveiller.
Voilà. En duplex avec Paris, Romane Leluc, merci beaucoup pour l'entretien.
Je vous en prie, merci à vous.
Toujours à Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, radiocentreville.com. On s'intéresse encore une fois aujourd'hui au travail des sénateurs et plus particulièrement ce membre de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sujet très à propos ces temps-ci, c'est le cas de le dire. Il s'appelle Alain Houpert, il est sénateur de la Côte d'Or en Bourgogne-Franche-Comté, membre du groupe Les Républicains, premier groupe représenté au Palais du Luxembourg et donc membre de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Il a accepté notre invitation et nous sommes sans duplex avec son Bernon, dans sa région de la Bourgogne-Franche-Comté. Alain, bonjour et bienvenue à Radio Centre-Ville.
Bonjour. Merci. Bonjour les cousins.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors d'entrée de jeu, Alain Houpert, on est déjà un peu à l'heure des bilans du nouveau gouvernement de François Bayrou. Commençons par le ministre qui, en principe, vous interpelle le plus lors des questions au gouvernement, Jean-Noël Barrot, donc ministre des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères. De prime abord, M. Barrot, selon vous, est-il un bon ministre?
Eh bien... Souvent en France, on dit que nous sommes au bord du gouffre et nous allons faire un grand pas en avant. C'est un peu ce qui se passe avec le gouvernement Bayrou. Vous me posez des questions sur Jean-Noël Barrot. Jean-Noël Barrot, il a une formation d'économiste, c'est un économiste franco-suisse. Et c'est résumé ses compétences en matière de politique étrangère et de connaissance des doctrines de politique des autres pays. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas au fait de ce que c'est que la diplomatie. Hein. Il est plutôt un grand spécialiste des vidéos. On le voit faire des vidéos sur n'importe quoi. Et c'est un peu gênant parce que la diplomatie, c'est la France était un fleuron de la diplomatie mondiale avec Talleyrand, le grand Talleyrand, dont Napoléon disait que c'était une merde dans un battoir. C'est-à-dire qu'un diplomate, c'est quelqu'un qui doit composer et surtout ne pas attaquer frontalement les adversaires, hein, frontalement la Russie ou frontalement Donald Trump. Ministre des Affaires étrangères, c'est le Quai d'Orsay, c'est quelqu'un qui doit être policé. Et ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui doit travailler justement à instaurer le débat. Et la France est à l'extérieur du débat, on le voit actuellement avec le conflit avec l'Algérie le démontre. Nos rapports avec l'Algérie souffrent d'un sentiment ambivalent, hein, entaché de remords post-colonialisme. Et puis, la France ne montre pas les dents, c'est-à-dire se laisse faire et toujours dans la soumission et dans l'acte de repentance, hein, je pense qu'on devrait être un peu plus fort avec l'Algérie actuellement, qui passe son temps à nous humilier. Donc, je trouve que on n'est pas. Et puis le président Macron, parce que vous parlez du gouvernement Bayrou, mais c'est quand même le président, c'est Macron, et Macron, il a complètement déstabilisé le Quai d'Orsay et tout l'outil diplomatique français en le détruisant complètement. Nous avons 800 fonctionnaires spécialisés en politique qui sont mis au banc et puis qui ne participent pas au débat. Alors voilà, nos ambassadeurs, ce sont des gens qui sont souvent qui ne font plus les langues orientales comme il était de tradition. Ce sont maintenant des hommes du sérail politique qui ne connaissent pas, à l'image du ministre des Affaires étrangères, qui ne connaissent pas ce que c'est que la diplomatie. Voilà. Et moi, en tant que parlementaire de la commission des affaires étrangères, je fais partie de ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire, et je suis profondément choqué de la façon dont se comporte la France vis-à-vis des autres puissances, hein. On évoque souvent la Russie et les États-Unis qui ont actuellement complètement changé de côté avec l'arrivée de Donald Trump. Je pense qu'il faut composer avec ces gens-là et puis être dans le dialogue plutôt que d'être se retrancher sur son pré carré et refuser la discussion. Ça, voilà.
Voilà. Ministre pour ministre, Sébastien Lecornu, ministre des Forces armées, est-ce qu'il remplit bien son mandat selon vous?
Ben, je me demande pourquoi il est ministre des Forces armées. Hein. C'est-à-dire que vous vous souvenez de Macron, il disait « soyez fiers ». Il disait à ses députés « soyez fiers des amateurs ». Je pense qu'on est comme dans l'amateurisme complet. Voilà, donc il y a eu des rapports quand même importants au Sénat et à l'Assemblée nationale. Certains chefs d'état-major l'ont dit. Nous sommes la France... à 3 jours de munitions. Hein. La France se prend pour une grande puissance militaire. C'est une puissance nucléaire, je suis d'accord, la stratégie nucléaire, mais actuellement la puissance militaire, on n'est pas là-dedans. 3 jours de munitions, c'est minimum. Et puis on a Emmanuel Macron, notre président, qui actuellement s'agite pour exister et qui est un peu un va-t-en-guerre, c'est-à-dire déclare... Il pousse l'Europe à entrer dans une guerre contre la Russie alors que les peuples ne le veulent pas. Et la Commission européenne, que représente, qui est toujours qui est dans le vent de Macron, est pour la guerre avec notre président de la République, mais les peuples européens sont contre la guerre. Donc, la guerre, je ne sais plus qui disait ça, la guerre est faite... par des gens qui ne se connaissent pas, pour des gens qui se connaissent. Donc c'est ça la problématique, il faut sortir de ça, parce que l'Europe, elle a été créée justement après la Deuxième Guerre mondiale, une Europe de la paix, et on n'a pas à rentrer dans une Europe de la guerre. Et nous avons besoin d'Europe, mais en tous les cas, moi je ne veux pas de cette Europe-là, cette Europe belligérante qui se permet d'attaquer. Je pense qu'il y a d'autres moyens que de faire la guerre aux hormones, vous voyez ce que je veux dire, hein, d'être du côté hormonal vis-à-vis de soit Trump, soit Macron, Poutine, pardon, mais plutôt être justement dans le débat, aller discuter. Regardez la paix en Ukraine, la France n'était pas présente aux négociations en Arabie Saoudite, c'est quand même grave. Et puis notre président, pour prouver qu'il existe, en rajoute et met de l'huile sur le feu. Donc c'est quelque chose de dangereux. Et puis vous faites partie de la presse. Vous savez que la presse c'est important et on peut manipuler l'opinion par la presse. Et actuellement l'opinion est fortement manipulée par ce qu'on appelle les médias mainstream.
Voilà. Je rappelle donc, Alain Houpert, vous êtes député de la Côte d'Or en Bourgogne-Franche-Comté, membre de la Commission des affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, membre du groupe Les Républicains, premier groupe représenté au Palais du Luxembourg. En terminant et brièvement, quels sont vos dossiers au sein de cette commission qui vous interpellent le plus?
Je suis sénateur. C'est le sénateur, c'est la chambre haute, c'est la chambre des représentants des collectivités territoriales. Donc, voilà, nous sommes élus par les maires, par les maires des communes, par des grands électeurs. Nous sommes élus au suffrage indirect. Les grands dossiers, bon, c'est une commission qui est intéressante. Qui est intéressante parce que on discute et on débat sur la marche du monde. Mais actuellement, je me sens pas partie prenante de ce qu'on peut faire, parce que je fais partie de l'opposition gouvernementale, je fais partie de la majorité des majorité sénatoriale, mais je suis dans l'opposition présidentielle. Je suis opposé au président Macron. Quoi. Donc, la défense et les affaires étrangères, c'est un précaré régalien qui est réservé au président de la République. Donc nous sommes un peu spectateurs, mais bon, le Parlement est là aussi pour contrôler l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, et actuellement, vous l'avez vu il y a quelque temps, le président Macron a encore dit qu'il allait envoyer 2 milliards d'euros à l'Ukraine, sans en parler au département. Et dans la Constitution, on ne peut entrer en guerre ou dépenser de l'argent pour de cette façon qu'avec l'accord du département. Donc là, on est plutôt spectateur et les bras ballants, et voilà, et on attend que ça change, et on attend qu'on change de gouvernement, et on en a encore pour 2 ans. Voilà.
Alain Houpert, donc en duplex avec Saubernon en Bourgogne-Franche-Comté. Merci beaucoup pour l'entretien et on vous souhaite un bon printemps. L'histoire jugera des élections dans le monde. Chaque semaine, des élus, des politologues, des universitaires, des essayistes, des laboratoires d'idées, et j'en passe, nous aident à comprendre les relations internationales. L'histoire jugera 102.3 FM.
Radio, mon carrefour multiculturel. 102.3 FM. Radio Centre-Ville. 102.3 FM. 102.3 FM. Au cœur de Montréal. 102.3 FM. Oh, 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 oh. 102.3 FM. Radio Centre-Ville.
Ici Tatiana Auguste, candidat libéral dans Terrebonne. Pendant l'élection ça, faut que nous choisissions un monde qui est capable de kembe tête face à Donald Trump et qui a bâti une économie qui jump pour tout le monde. Dans Terrebonne, c'est pour nous toutes sociales voter pour moi parce que ma travail main dans la main avec Mac Carney pour une Terrebonne vin plus fort. C'est seulement équipe libérale là qui est capable aider au traverser crise ça et puis bâti un Canada qui plus fort.
Cette publicité est autorisée par l'agent officiel de Tatiana Auguste.
Au top du palmarès qualité Tout savoir sur l'immigration. L'émission Tout savoir sur l'immigration présentée par François Jean-Denis, consultant canadien accrédité dans ce domaine, s'installe à l'antenne de Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, tous les samedis entre 7h et 8h du matin. Désormais, à compter de ce samedi, l'émission Tout savoir sur l'immigration, c'est votre rendez-vous sur les ondes du 102.3 FM.
L'efficacité, la courtoisie, la ponctualité sont devenues les notes d'excellence de Maître Suzy Jean. Alors, sachez faire d'elle votre meilleur atout. Pour vos testaments, célébrations de mariage, achats de propriété, Maître Suzy Jean Notaire. Maître Suzy Jean Notaire vous attend dans le chic de son bureau au 4570 rue Jean Talon Est, suite 202. Si on ne parle pas l'autre, n'a pas qu'on est qui s'appuie mon boulot, c'est pour ça Maître Suzy Jean là, oui. Maître Suzy Jean Notaire, à le rencontrer avec elle, dans 4570 rue Jean Talon Est, bureau 202. Téléphone 514-318-1854. 514-318-1854. Maître Suzy Jean Notaire, le vôtre.
Tu penses qu'animer à la radio, c'est pour les autres puis que c'est inaccessible? Ben, c'est tout le contraire. La radio a besoin de relève. Elle cherche du monde allumé qui a des choses à dire. Ceux que tu écoutes actuellement sont posés les mêmes questions que toi.
Ah ouais?
Mais ils ont agi. Ils ont choisi une formation. Ils ont appris le métier. Et aujourd'hui, ils sont en onde. Le chemin le plus court entre chez toi et la radio, c'est le Collège Radio.